Exposé du contenu de la foi. Une des grandes contributions de l'islam à la civilisation fut de préserver, de transmettre et d'enrichir l'héritage philosophique, scientifique et médical des Grecs, qui avaient été en grande partie oubliés dans le monde occidental. Par leur traduction de travaux philosophiques rédigés en grec ancien, les disciples musulmans se sont familiarisés avec les thèmes des discussions philosophiques et avec les conclusions des philosophes grecs. Certaines portaient notamment sur le fait de savoir si le monde avait été créé ou était éternel, et si la résurrection physique des corps aurait bien lieu, et entrait manifestement en conflit avec la parole du Coran. Le problème du rapport entre la révélation et la raison humaine est souvent difficile à traiter dans la religion, et plus particulièrement dans le cas des trois religions monothéistes. Les Occidentaux sont généralement sensibilisés aux questions qui surgissent quand les conclusions de la science moderne viennent contredire des énoncés de la Bible en particulier. On peut citer en exemple le récit de la création du monde en 7 jours, Genèse 1, qui va à contre-courant de ce que nous enseigne la science, qui a démontré que la formation de la Terre a pris plusieurs millions d'années. Un autre exemple que chacun connaît est le conflit qui oppose le récit de la création du monde dans la Genèse et la vision darwinienne de l'évolution des espèces humaines. Dans le monde chrétien, il existe un courant de pensée qui s'attache à prendre à la lettre les récits de la Bible, et notamment le récit de la création du monde. Ce courant de pensée s'appelle le créationnisme. Chez les musulmans, il existe également un courant de pensée qui rejette les conclusions de la science moderne sur la création du monde. Voici 3 manières auxquelles les philosophes théologiens musulmans ont eu recours pour aborder ces questions. Essayer, par l'utilisation de la raison humaine, de réfuter les conclusions des philosophes grecs sur les points où leurs conclusions étaient en conflit avec la parole du Coran. Rejeter la philosophie, parce qu'elle était en conflit avec la révélation de Dieu, et, partant, refuser de polémiquer. Il faut accepter tout ce que l'Écriture sainte dit, sans même se demander comment cela peut se faire. Accepter les positions prises sur ces questions par les philosophes grecs, telles qu'elles ressortent des écrits d'Aristote, de Platon et des néo-platoniciens, et trouver une manière de concilier ces positions avec le Coran. Une manière possible de concilier les conflits apparents entre la raison et la révélation, la philosophie et le Coran, consiste à dire que certaines déclarations du Coran doivent être comprises comme des métaphores ou comme un langage poétique et ne peuvent pas être prises au pied de la lettre. Une autre manière de concilier des contradictions apparentes était de dire que les énoncés doivent être pris au sens littéral, mais qu'une fois appliqués à Dieu, ils ne signifient pas la même chose que dans le langage commun. Par exemple, le Coran dit que Dieu a un visage et des mains. Les premiers théologiens musulmans étaient en désaccord quant à la signification de cet énoncé. Certains ont indiqué que c'était une manière métaphorique d'exprimer la nature de Dieu en tant qu'être personnel et actif. D'autres ont défendu l'idée que cet énoncé devait être pris au sens propre et accepté comme une vérité, sans que les croyants soient véritablement en mesure de savoir comment le comprendre quand il est appliqué à Dieu. Cette position d'acceptation sans explication rationnelle est devenue la position dominante dans l'islam. Elle est encore aujourd'hui. À retenir. Toutes les parties prenantes dans cette discussion ont accepté l'autorité du Coran et l'ont cité librement pour défendre leur position tout en interprétant différemment certains passages spécifiques du Coran qu'ils ont utilisés pour défendre leur version. Tous ont également accepté les croyances de base de l'islam, même si parfois ils les ont comprises différemment les uns des autres. Pendant 300 ans, les discussions ont continué jusqu'à ce qu'un consensus général émerge au milieu du Xe siècle et vienne clore les débats. C'est ainsi qu'est né le courant sunnite, Al-Sunna wal-Jama, c'est-à-dire les adeptes de la tradition et de la communauté. Cette position de consensus est particulièrement associée au grand théologien musulman Al-Ash'ari, 873-935.
La philosophie et l'islam, duel ou duo? Les questions religieuses occupent certes une place importante dans la philosophie traditionnelle, mais ne constituent pas l'essentiel de la recherche philosophique. Certains sceptiques occidentaux se sont demandé si les intellectuels musulmans pouvaient s'engager à nouveau dans les domaines ressortissants à la philosophie, tels que les mathématiques, la logique, les sciences physiques et l'éthique. Ils se posent la question de la modernité en islam et s'interrogent aussi sur son aptitude à embrasser les convulsions du siècle et surtout sa capacité à jeter des ponts avec les autres civilisations. Cette question a traversé les siècles durant lesquels l'islam pouvait parler au monde dans sa propre langue. Il est en effet admis que les sciences mécaniques, les mathématiques, la chimie et l'alchimie, mais aussi la médecine et la philosophie, constituaient le fleuron de la pensée arabe au Moyen Âge. Al-Ghazali, 1058-1111, a défendu l'obligation de recourir à la philosophie dans la plupart de ses champs d'investigation, tout en précisant les limites imposées à la philosophie, car elle pouvait conduire, selon lui, à un doute mortel pour la religion. Le Coran lui-même fait l'éloge du savant et demande que l'on recherche la connaissance. Al-Ghazali a été à la fois un théoricien très important du droit islamique, un théologien remarquable, un moraliste hors pair et un maître soufi. Pour en savoir plus sur le mysticisme soufi, écoutez le chapitre 14. Il est probablement le penseur le plus important de l'islam médiéval, comparable en cela à Maïmonide, Nagarjuna et saint Thomas d'Aquin, pour respectivement le judaïsme, le bouddhisme et le christianisme. Le monde arabe et l'islam, sortant à peine de son siècle le plus obscur depuis l'avènement de l'islam, affronteront-ils avec un minimum d'efficacité la rapidité avec laquelle le monde occidental progresse, et surtout ses transformations politiques et intellectuelles? Selon une vision assez fixiste, ce monde arabo-musulman est considéré comme un monde figé. À quand le renouveau de toutes ces disciplines? À quand l'avènement d'un mouvement intellectuel qui serait affranchi des codes anciens, autonome dans ses choix, libre et souverain par rapport au monde politique? En fait, la question est plus profonde. Des chercheurs comme Ali Abderrazik, en Égypte au premier quart du XXe siècle, l'ont abordé sur un autre terrain, celui des prérogatives exactes du personnel religieux. Faut-il ou non séparer la gestion de la cité de celle de la mosquée, et à quel prix? Y a-t-il une possibilité sérieuse pour que la pensée politique puisse prendre son envol sans jamais en rendre compte au clergé musulman, au moins dans la version préconisée par la mosquée universitaire du Caire, Al-Azhar ?